à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Mordren.
Salut à tous.
De par chez nous, on l'appelle le nouveau, n'est-ce pas? C'est Ben.
Bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui connaissent tes goûts, tout ça, qu'on sache à qui on a affaire quand même, hein? Parce qu'on n'accueille pas n'importe qui chez nous ici, hein?
La sélection a été dure.
Ah ouais, ah, terrible.
Donc moi c'est Ben, fan de JRPG à l'origine. C'est parti du Suikoden, du FF7, à des jeux plus PC type Fallout 2 ou bientôt Westland 2, dès que j'aurai un peu de temps devant moi.
Voilà, un homme de goût en quelque sorte. Vous voyez, on prend pas n'importe qui ici. Hein. Quand je vous dis qu'il y a une super sélection à l'entrée et tout, qu'est-ce que vous croyez? Non, en vrai, en fait, c'est le seul qui a postulé. Hein. D'ailleurs, je signale que nous cherchons toujours des nouvelles têtes, hein, au passage. Donc, je rappelle que vous pouvez envoyer un mail à tyranpremier@msn.com. Ben peut témoigner, je ne mords pas.
Non, pas du tout.
Venez nombreux, merci. Ça fait pas du tout désespérer. Pas
non.
Du tout. Pas du tout. Ok, bon. Allez, assez radoté, nous allons commencer le sommaire de l'actualité. Cette semaine, nous vous parlerons du foutage de gueule signé Hubert Entertainment. Hubert, c'est en gros ceux qui avaient fait le Kickstarter de Planetary Annihilation, Kickstarter dont je vous avais parlé ici. Ils en ont lancé un autre et je vous expliquerai pourquoi c'est un scandale et Mordren se chargera de faire l'avocat du diable. Enfin, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
J'essaierai, mais c'est compliqué, tu sais, sur ce sujet-là.
Ensuite, j'espère que vous avez bien déjeuné, que vous avez bien profité, parce que vous avez bien gerbé aussi. Nous vous rapporterons les propos du producteur, je crois, c'est ça. Enfin, c'est le producteur, en gros, hein, des Call of, tout ça. Call of Duty Black Ops, il me semble.
Oui.
Des propos qui... Dans le fond, je sais qu'il ne devrait pas m'étonner, mais c'est tellement gerbant qu'on va quand même en parler. nous évoquerons ensuite les critiques sur Steam, qui ont eu droit à un petit changement, entre guillemets. Il y a une petite clause qui a été rajoutée au contrat à la fin, là. Et c'est un petit changement que je trouve pas mal, personnellement, même si vous verrez que je suis assez dubitatif dans le fond.
Ouais.
Toujours dans cette lignée-là, nous vous parlerons de la transparence chez Twitch, où c'est un peu dans le même esprit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu une modification du contrat qui est assez appréciable. Après, je suis toujours aussi dubitatif aussi. Ensuite, nous vous enchaînerons sur Final Fantasy, Square Enix, Final Fantasy XV, la com désastreuse, n'est-ce pas? Enfin, moi, j'appelle ça une com désastreuse, hein, parce que des fois, je me demande s'ils connaissent vraiment le public qui achète leurs jeux, parce que je vous avoue, pour sortir des trucs comme ça, je pense qu'ils n'ont pas mis les pieds sur un forum de jeux vidéo depuis 10 ans, à peu près, un truc comme ça... Et que ils ont toujours pas compris que leur franchise n'était pas Call of non plus. Donc on verra ça tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, un petit coup de gueule de Ben.
Eh oui.
Le premier.
Voilà.
Je suis dans l'ambiance déjà.
Le stage d'intégration s'est très bien passé.
Ouais.
Might and Magic Heroes Online, on vous parlera du modèle économique qui, je crois, te fait vachement plaisir, Ben.
Exactement, ouais.
Voilà. Sans oublier notre jeu du moment, c'est le jeu qui a fait flipper Mordren, n'est-ce pas? Enfin, il s'est ridiculisé tout seul en direct hein, sur ce jeu. Ça
What?
S'appelle The Long Dark. Mordren, si tu nies, je te préviens, je mettrai une séquence vers la fin de ton stream. Les gens sauront. Donc, on va commencer avec le foutage de gueule signé Hubert. Comme je disais, ils avaient lancé un petit Kickstarter, et ce Kickstarter, c'était Planetary Annihilation. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop le monde du RTS, Planetary Annihilation, c'était censé être le successeur spirituel de Total Annihilation. Total Annihilation, c'est un peu un jeu culte de la fin des années 90, qui contenait plein de features qu'on retrouve même pas dans le jeu aujourd'hui, dont notamment du relief sur les terrains, tu vois, un truc de fou, où t'as une vraie balistique, tu vois, et si t'as une montagne, bah la balistique, elle se plante sur la montagne.
Ouais, c'est dur à mettre en place, hein.
Ouais, bah, la preuve, le jeu date de 1997, hein, on l'a pas vu depuis ce genre de truc. Sauf dans des jeux, bizarrement, qui datent de cette époque, genre Warhammer, Dark Omen, ce genre de truc, mais bon. Donc, ces gens-là, ils ont voulu faire un jeu, un successeur spirituel à celui-là. Bon, il faut savoir qu'entre-temps, il y a quand même eu Supreme Commander, mais Supreme Commander s'attardait sur d'autres aspects, etc. Ils voulaient revenir à quelque chose de plus basique, si vous voulez, de plus proche de Total Annihilation. Donc ils avaient fait plein de promesses, etc. Je m'attarderai pas ici sur la qualité intrinsèque du jeu, parce que pour le moment, en fait, j'y ai même pas joué. Je peux juste donner les retours que j'ai eus, et je sais qu'ils sont pas bons, et qu'ils me donnent pas envie d'y jouer, d'ailleurs, en fait, en vrai. mais c'est pas le sujet, en fait, parce qu'à la limite, qu'un jeu se plante et soit pas bon au final, je veux dire, c'est le jeu du financement participatif.
Oui.
Si t'acceptes pas de prendre le risque que si ça se trouve tu vas te retrouver avec une belle merde, il faut pas faire du financement participatif.
C'est sûr.
Voilà. Si t'acceptes pas perdre de l'argent non plus, accessoirement. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, nous avons eu la nouvelle qui lançait un nouveau Kickstarter. Alors, pourquoi je gueule? Parce que je trouve ça curieux quand même qu'ils lancent un nouveau Kickstarter, alors que leur nouveau jeu qu'ils aiment sortir, qui est censé être terminé, ne l'est pas en fait. C'est-à-dire que notamment, ça devait être un jeu DRM free, c'est une feature de base qui est promise. On peut même pas jouer offline, on peut même pas sauvegarder sa partie, hein. Sauvegarder sa partie, hein. Une feature basique de chez basique, comme sauvegarder sa partie, on peut pas faire. Vous voyez ?
Sympa.
C'est un DRM à la Diablo 3, donc toujours en ligne, etc. Electronic Arts ferait ça, tout le monde leur chierait dessus, mais bizarrement là c'est un indé, donc il y a la moitié qui des gens qui sont pour les défendre, tu vois, enfin c'est voilà. Oh, c'est des petits indés, c'est pas grave.
Mais c'est surtout quel est l'intérêt en fait.
Voilà. Bon, moi je vais pas débattre sur le fond, le fait est que les features promises elles sont pas toutes là.
Ouais.
Et ils lancent un nouveau Kickstarter. Bon, si vous voulez, à un moment donné, je suis bien con. Surtout que j'ai backé le premier projet, ouais. Que j'en ai même fait la promo ici, hein.
C'est vrai,
j'ai vraiment été con sur ce coup-là, mea culpa, mais il y a des limites. Voilà, je veux bien être sympa deux minutes, tout ça, mais faut pas déconner non plus, quoi. Bon, après, le Kickstarter lui-même, honnêtement, franchement, tu vois la vidéo, mais en vrai, ça a l'air pas mal, hein.
Oui, effectivement, alors le jeu s'appelle, enfin, le projet de jeu s'appelle Human Resources, c'est-à-dire les ressources humaines, et le concept, en fait, c'est un jeu de stratégie en temps réel où il y a pour l'instant deux factions, des espèces de xénomorphes assez dégueulasses, tentaculaires, et des gros robots. Le concept, c'est Pacific Rim versus extraterrestres, et bon, le parti pris graphique est assez, comment ? T'as l'impression que ça sort d'un comics, en fait, concrètement, avec des features de gameplay où vous allez devoir collecter les ressources humaines, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous allez drainer, on va dire, la vie des humains pour ensuite pouvoir débloquer des unités plus fortes, etc. Chacune, évidemment, a des features de gameplay différentes, notamment une qui est capable de, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais de scinder en deux une planète.
Alors, c'est pas vraiment des planètes, en fait, si vous voulez, c'est des espèces d'îles...
C'est une île volante
à la Skies of Arcadia, quoi.
C'est ça.
C'est des gros morceaux de terre qui peuvent couper en deux, quoi.
Voilà. Avec un environnement entièrement destructible, et donc on pourrait se battre avec des à coups de gratte-ciel, par exemple.
Ouais, pourquoi voilà. À un moment donné, il y a un truc cool, c'est genre il tire un rayon laser, tu vois, ça transperce le gratte-ciel, ouais. Et t'as le gratte-ciel qui commence à s'écouler. Ah, tu fais cool, ouais. C'est. Ouais. En fait, tu reconnais la patte Hubert, si tu veux, dans ce dans ce Kickstarter, parce que tu regardes la vidéo de Planet Annihilation. C'est la même merde, en fait. C'est-à-dire que on te fait une vidéo super catchy. Bon, alors, en vrai, c'est du pur concept art. Hein. Ça n'existe pas, ce que vous voyez là. C'est du pur bullshit. Le jeu final ne ressemblera pas du tout à ça. Hein. Je me rappelle la vidéo de Planet Annihilation. Je peux vous dire qu'il ressemble pas, au final, à ce qu'on avait vu sur la vidéo. Hein.
Ouais.
Pas du tout. Et puis voilà, et puis tu passes en mode belief parce que c'est du RTS et t'es tellement mort de faim en ce moment en RTS que bon, de moins en moins tu me diras, mais c'est quand même encore un peu à la dèche, donc quand t'as un truc en plus un peu innovant comme ça, t'es tout de suite appâté.
Ouais.
Mais c'est un jeu Uber, alors je sais que Mordrain a dit qu'il est joué de l'avocat du diable, mais à un moment donné, moi je ne peux pas faire abstraction de la société qu'il y a derrière, et je suis désolé, la société qui est derrière, elle a un passif de bullshit.
Ah oui, on est d'accord, mais tu vois, pour le coup, toi t'es quelqu'un d'éduqué, tu sais que Uber Entertainment c'est Planetary Annihilation. A priori, il y a quand même des gens qui sont à fond dedans quand même. Hein. Alors, il y a 4000 backers, il y a déjà 160 000 dollars qui ont été donnés en deux jours sur 1 400 000 d'objectifs. tu sens quand même qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement, ou alors qui n'ont pas compris effectivement ce qu'il y a derrière.
Attention, on faut dire qu'ils ont des fanboys aussi, hein, parmi ceux qui ont financé Planetary Annihilation. Hein.
D'accord.
Tu sais, c'est les mecs qui, quoi que tu dises, en fait, trouveront toujours quelque chose à redire. Mmh. Genre, ouais, non, mais tu vois, le DRM Free, en vrai, ils ont balancé ça comme ça, mais c'était optionnel, tu vois. Ils nous prennent vraiment pour des cons.
Ouais.
Et là, c'est des gens avec qui tu peux pas discuter, qui, quoi qu'il arrive, vont défendre le jeu. Donc,
c'est de la mauvaise foi, quoi.
Et le pire, c'est que ces gens nuisent sur au jeu, à mon avis, hein, parce que c'était pareil pendant la bêta, et moi j'ai vu plein de retours pendant la bêta qui étaient vachement intéressants, mais genre pas des mecs qui trollaient, tu vois, des mecs qui se faisaient chier à argumenter et tout, on sentait qu'ils connaissaient le sujet, quoi, et on les écoutait pas parce qu'il y avait 3000 trolls qui leur tombaient dessus derrière, des fanboys, et qui alors que leurs retours, tu vois, ont été super positifs pour le jeu, je pense. C'était tout l'inverse, par exemple, du Early Access de Divinity Original Sin, où là, les mecs écoutaient vraiment tout le monde. Alors certes, ils faisaient le tri, mais ils écoutaient les gens. Là, c'était en mode, alors en gros, dès que tu émets une petite critique sur un truc qui va pas, ça y est, t'as 3 fanboys qui te tombent dessus, quoi. Et en gros, tu peux rien dire.
Ouais, et le problème, en fait, c'est que du coup, en tant que développeur, si tu te mets à leur place, tu dis que s'il y a un mec qui rage ou un mec qui critique, et qu'il y en a 5 autres derrière qui lui disent « Non, mais t'as tort », le développeur dans sa tête il dit non mais ça veut dire qu'il est à 5 contre 1 donc finalement je vais aller vers la solution de facilité, c'est-à-dire de laisser comme c'est, puisque a priori il y a 5 personnes de plus qui sont satisfaits, tu vois, donc finalement tu vas dans le mauvais sens.
Puis moi, ce qui m'a énervé encore plus, si tu veux, ce qui a rajouté à l'énervement, c'est les mecs qui te disent sur la page de leur Kickstarter, là, d'ailleurs, on a fait un Kickstarter avant, il est sorti, là, je pense que le résultat part de lui-même. Genre, tu vois, ils savent pas les problèmes qu'il y a sur le jeu actuellement, pas du tout, ils ne sont pas au courant. Voir que des mecs comme ça ont 150 000 dollars, alors honnêtement, je sais pas si le Kickstarter va marcher à l'heure actuelle, parce que ça va dépendre de ce qui va se passer dans les 2 prochains jours.
Exactement.
D'habitude, ce qui se passe sur Kickstarter, c'est à les 2-3 premiers jours, ça marche, puis ça descend. Et si ça descend comme ça descend d'habitude sur Kickstarter, je pense pas qu'ils vont y arriver, en fait. Par contre, si ça continue comme on a pu le voir dans quelques rares cas, alors là, c'est sûr qu'ils vont y arriver, par contre. Donc, dans les 2-3 prochains jours, ça va être décisif, on va dire. Mais c'est la première fois que je dis ça, mais franchement, j'espère qu'ils vont se planter. Parce que si des mecs comme ça arrivent à se financer, enfin, je suis désolé, c'est dégueulasse. Ne serait-ce que pour les autres studios qui font l'effort de la transparence, qui se foutent pas de leurs backers et qui reçoivent moins d'argent, tu vois, je trouve ça dégueulasse.
Mais ils demandent beaucoup, là. Hein.
Ils demandent énormément.
Ah oui, 1 400 000. Bon, après, de notre point de vue de joueur, c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est la somme honnête, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la somme que si tu veux vraiment faire un vrai jeu, il faut mettre cette somme-là, tu vois. Surtout que eux, je pense qu'ils sont chauds, là. Financièrement, là, c'est tendu, quoi. Ah oui, j'ai oublié le truc.
J'allais le dire.
J'ai oublié l'autre chose. Ils ont fait une promo 50% Steam alors que le jeu vient de sortir. Non, voilà qu'est-ce que je dis, ça, à un moment donné.
En fait, ça donne vraiment l'impression que le studio est en train de crever la gueule ouverte et qu'ils essaient de choper la thune là où ils peuvent, et ça donne pas forcément confiance en ce Kickstarter, du coup, parce que si le studio est en mauvaise posture financièrement, comment voulez-vous qu'un Kickstarter aille à son terme, quoi. Donc bon.
Est-ce qu'ils font pas juste ce Kickstarter là pour finir, en gros, de financer le premier, quoi?
Ah, c'est une question, très bonne question.
Ah, bah oui, je pense que c'est même totalement
il est bien,
ça, quoi.
Monsieur. Écoutez-le, il pose des très bonnes questions.
Non, mais dans l'idée, ça ressemble vraiment à ça. Après, si on n'a pas suivi le premier projet, on peut tomber dedans parce que la vidéo a l'air super sympa, le jeu peut être très sympa. Mais si on a suivi ce qui s'est passé avant, on a vraiment l'impression qu'ils font un nouveau Kickstarter juste après le premier et que ça va les aider à finir le premier jeu, quoi.
Oui, parce que, en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le jeu, là, il utilise le même moteur que Planetary Annihilation.
Effectivement.
Et il demande 1 400 000 dollars pour ça.
Voilà.
Ça paraît beaucoup.
Soit dit en passant, il y a pas mal de gens qui ont financé le premier qui disent qu'ils ont vachement l'impression d'avoir financé un moteur, en vrai, tu vois.
Ouais, c'est pas impossible, oui.
Et donc, en vrai, il y a pas mal de gens qui, on va dire, sont médisants, qui ont vachement l'impression que c'est pour financer la suite du développement du moteur, en fait, si tu veux, quoi.
Ouais, bah ça.
Et d'ailleurs, ils le disent, hein, il y a des features qui vont se retrouver sur Planetary Annihilation. Hein. Ils le disent très clairement, ça profitera Planetary Annihilation. Alors, c'est comme ça sur le papier. Tu sais, ça fait cool, tu vois.
Oui, c'est sûr.
C'est la manière dont tu présentes les choses, si tu veux. Si tu vois ça, le côté positif, ouais, ça va porter des features à Planetary Annihilation. Et tu vois, la vision Ben, powered par Ben, ben, ça fait, écoute... on n'a pas fini de financer, là, on a un peu serré sur le budget, là, donc on aurait besoin d'une rallonge de 1 400 000, on fera un petit jeu avec, hein. C'est merci.
Ça. Non, et puis quand ils auront besoin de finir celui-là, ils relanceront un nouveau Kickstarter, voilà. Et voilà.
Alors, je sais pas, je rappelle le nom, hein, Kickstarter, Starter, hein, c'est censé être un coup de pouce pour se lancer, tu vois, c'est pas censé être le truc où tu vas revenir à chaque fois pour financer un jeu, hein, mais bon. Bon, c'est sûr qu'après, pour ça, il faut sortir des bons jeux qui se vendent, qui sont respectueux de la communauté, tu vois, c'est... faut faire... Il y a un certain nombre de prérequis, tu vois. Là, je comprends, finalement, si tu veux, parce que ils sont tellement foutus de la gueule des gens que... Puis, je vous rappelle quand même leur early access à 90$, tout ça parce que ils avaient fait la connerie sur le Kickstarter de mettre la bêta à 90$. C'était assez savoureux, ça aussi. Ou aussi le fait que c'est les seuls, à ma connaissance, qui ont oser sortir un Early Access en boîte. Enfin, voyez, c'est quand même un studio qui a un certain passif, quoi, quelque ouais. part. Alors, moi, vous êtes libre de financer ce que vous voulez, hein. Mais après, attention, je veux pas entendre des discours en mode « Oh là là, Kickstarter, ma blablabla, blablabla. » Là, vous avez été prévenu quand même. Vous le saviez, voilà.
Tu parlais de l'alpha à 90$. Pour Human Resources, c'est aussi à 90$ l'alpha, hein.
Oh, et en plus, ils ont rien appris ouais. de Planetary Annihilation.
Ah non, ils voilà, font voilà. exactement la même chose, ouais.
Bravo.
GG.
Et pour terminer, en plus, il y a les clients des anciens jeux de Uber. Alors ça, pour le coup, je les connaissais pas, les jeux. Donc, Mundane Night Combat et Super Mundane Night Combat. Il y en a qui est un free-to-play, notamment. Qui sont arrivés, là, le sourire aux lèvres, qui ont dit, on vous l'avait dit, les mecs. Super Mundane Night Combat, ils nous avaient promis des mises à jour, comme ils le promettent là actuellement sur Planetary Annihilation. Ouais, parce que le discours là, c'est en mode ouais non, mais en fait c'est juste l'équipe de pré-prod qui est sur le nouveau projet. La majeure partie de l'équipe est à 100% sur Planetary Annihilation. Bon, ce qui sur le papier se défend, hein. C'est ce qu'avait dit notamment Brian Fargo sur Westland oui. 2. A priori, il a tenu parole. Sauf que, effectivement, mais les mecs, ils ont un passif quand même. Et ce passif, c'est Super Mundane Night Combat, où ils avaient promis de maintenir le jeu à jour. Ça fait un an qu'ils attendent les mises à jour. Hein.
Superbe.
Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes après. Hein, mais... voilà. Bon, je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs, ouais. qu'on arrête de radoter. Et nous allons parler des nausées matinales, tout ça. Non, nous ne parlons pas d'accouchement ou de maladie, tout ça. Non, non. Quoique là, ça peut être une maladie à ce niveau-là. Mais nous allons parler du producteur de Call of Duty.
Directeur de Call of Duty Black Ops, voilà. pour être précis.
Ouais, parce que producteur, il me semble, c'est le terme, c'est qu'il est en français, mais je sais pas si...
C'est possible, ouais.
Oui, ça.
Donc, enfin, peu importe. En gros, c'est le mec qui est en haut, tu vois, c'est le chef. Donc, le chef a dit que l'armée américaine, franchement, il pourrait apprendre plein de trucs de Call of Duty, quoi. Notamment le fait que, en gros, quand tu veux vendre un truc à des gens qui sont pas forcément très coopératifs, il suffit de leur laver le cerveau. Alors, Morane, est-ce que tu peux citer ouais. la citation exacte?
Alors, donc juste pour rappeler, il était dans une conférence à Washington, au bureau de défense des États-Unis, en fait, où il parlait justement de ce genre de choses.
Conférence que j'ai écoutée en partie, j'ai pas tout écouté parce que c'est vachement ouais. long, mais il y a des trucs assez gerbants dans des...
Où il parlait des problématiques de sécurité aux États-Unis à l'intérieur du territoire, blablabla. Et donc, il disait que, voilà, le gouvernement a des problèmes parfois à faire accepter ses motions parce que le public a l'impression de... que l'État devient un État policier. Et donc, lui, il dit, bah voilà, prenez exemple sur l'industrie du divertissement et les jeux vidéo, et il dit, voilà, moi, mon expérience avec Call of Duty, nous, on a toujours eu des détracteurs, blablabla, mais qu'est-ce qu'on fait pour que le consommateur nous achète? Je cite, « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essentiellement laver le cerveau des gens afin qu'ils aiment notre jeu avant que celui-ci sorte. » Fin de citation. Débattez.
Bah, après, est-ce que c'est surprenant? On va pas faire les naïfs, je veux dire, c'est un marketeur, on sait très bien que les marketeurs, voilà, je me rappelle plus dans quel podcast j'avais entendu que les marketeurs c'était tous des putes. Ah oui, c'était les tauliers. C'est ça, c'est le ton.
C'est une stratégie classique de marketing, c'est-à-dire que tu matraques ton jeu, tu matraques ton produit afin que les gens se disent, ah non mais ce jeu j'arrête pas de le voir quand même, est-ce que je vais pas m'intéresser un petit peu quand même, parce que j'entends quand même dans les médias que c'est acheté à je sais pas combien de millions d'exemplaires, blablabla, blablabla, et au bout d'un moment les gens se disent mais ah ouais, pourquoi pas.
Alors pourquoi moi j'ai voulu en parler, parce que c'est moi qui ai mis cette news, tout simplement parce que ça fait du bien des fois d'avoir des propos sans filtre en fait, et que ça fait du bien la piqûre de rappel, parce que des fois les gens ont tendance à dire ouais non mais les mecs c'est vous qui êtes cyniques, que et puis voilà, t'as ce genre de truc magnifique qui arrive et là la vérité éclate. J'ai envie de dire, en mon sens, dans toute la conférence, enfin moi ce que j'ai pu écouter, en tout cas c'est pas le pire de tout ce qu'il peut dire.
Ouais.
Le passage, moi, qui m'a fait le plus froid dans le dos, dans ce que j'ai pu écouter, c'est le moment où il t'explique que, en gros, pour éduquer les gosses, on va faire des produits culturels où on va bien les formater, tu vois.
Ça donne envie, hein, par rapport à la licence Call of Duty.
Ah ouais, et en même temps, c'est ce qu'ils font avec Call of, hein, j'ai envie de dire.
Oui.
Oui, quand tu dis lavage de cerveau, c'est totalement ça.
Ah, c'est
sa façon de passer, quoi.
America.
C'est clair. Et son cheval de bataille dans cette conférence, d'ailleurs, c'était de dire que pour éviter les massacres dans les écoles, il fallait qu'il y ait des agents sous couverture dans les écoles en permanence, qui pourraient donc, le moment venu, agir le plus vite possible pour, a priori, éliminer la menace. Un petit peu ce qu'il y a dans les ce qu'on appelle les shérifs Marshall, les Air Marshall, c'est des personnes qui sont sous couverture dans des avions à risque entre guillemets, et voilà, si cet avion est détourné, eh ben il y a Liam Neeson qui va leur péter la gueule, quoi. C'est ça l'idée, et c'est ce qu'il essaie de promouvoir dans cette conférence.
En plus, moi ce qui m'a choqué, si tu veux, c'est que là on parle plus de jeux vidéo là.
Non,
ça serait que du jeu vidéo, ça serait rigolo. Ah, 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 regardez, ils prennent les consommateurs pour des cons, lol, polémique pendant une semaine, hop, on passe à autre chose.
Alors, a priori, ce monsieur est quand même, a quand même fait des études sur la sécurité internationale.
Ah oui, non, mais attention, hein, c'est un think tank, je crois, un truc.
Ouais.
Ces trucs qu'on cite à chaque fois qui servent à rien, qui ont plein d'idées, mais... ne pas exprimer les opinions politiques, ne pas exprimer les politiques, voilà. donc... A priori, bon, moi, ce qui me gêne, c'est que, en plus, ce mec, il écoutait, quoi. C'est, pendant une heure, il a été sur une conférence, comme ça, il est écouté sérieusement, quoi. Il y a même des gens qui l'applaudissent et tout, et moi, à ce moment-là, je suis là, je fais, t'as beau savoir qu'il y a des trucs super flippants qui se passent aux États-Unis en ce moment, au niveau, des lois qui sont votées, etc., pour combattre le terrorisme, machin bidule. Bon, en France aussi, c'est pareil, ce titre en passant, mais bon, bref. C'est très dérangeant quand t'écoutes ça, quoi. C'est flippant.
Ouais.
Bon, bah écoutez, messieurs, j'espère que cet individu ne sera pas trop écouté. En tout cas, bah voilà, la prochaine fois que vous achèterez un jeu Call of Duty, vous saurez.
Vous saurez à quoi vous avez affaire.
Surtout, vous saurez ce que pensent de vous les gens qui vous vendent cette tambouille-là, quoi. Pour une fois, tu vois, on n'a pas filtré. On voit vraiment qu'en fait, il prend ses consommateurs pour des imbéciles, quoi. Enfin, très clairement, quoi. C'est...
Moi, je suis vraiment très surpris qu'on ait ce genre de phrase qui soit prononcée publiquement, de la part d'un marketeur, surtout.
Voilà, parce que je pense que les stratégies marketing sont un peu les mêmes dans toutes ces grosses boîtes, mais lui, il ose le dire, quoi. C'est surtout ça.
Enfin, bref. Nous allons passer un sujet un peu plus léger.
En tout cas, c'est plus satisfaisant.
Les critiques sur Steam.
Ouais, on en a parlé la semaine dernière où on parlait de ce fameux mot curateur qui est dégueulasse.
Mmh.
Donc le système de recommandation sur Steam avec les personnes qui sont à suivre, on va dire, auxquelles les utilisateurs de Steam font confiance pour les éclairer dans leur choix de jeu sur le magasin. Un problème n'avait pas encore été adressé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui peuvent être payés pour recommander certains jeux, quoi. Ça se fait pas mal aux États-Unis, par exemple.
Ça se fait pas mal chez certains youtubeurs français aussi, hein.
Aussi. Cela dit, j'ai pas encore vu de youtubeurs français en tant que curateur sur Steam, mais j'ai peut-être pas encore assez regardé.
Attends, c'est pas fini.
Ça fait que commencer.
Donc, a priori, Steam... Enfin, c'est pas a priori, Steam a rajouté une clause à la fin de son accord sur les recommandations sur Steam, sur ses critiques, qui dit très exactement, si vous acceptez de l'argent ou une autre compensation pour faire cette évaluation de produit, ou afin de publier une recommandation, vous devez l'indiquer dans votre recommandation. Donc en gros, la personne qui recommande un jeu et qui a été payée spécifiquement pour le recommander, doit le dire dans sa recommandation et donc être transparent sur sa démarche. Alors après, bon, c'est la même chose que Twitch qu'on va évoquer juste après. C'est facile de dire ça, c'est-à-dire que la personne qui recommande peut très bien le faire, et là tout va bien dans le meilleur des mondes, mais qu'est-ce qui se passe si le mec décide de pas le faire finalement?
Ouais, parce que moi c'est ce que j'allais dire, ils ont quel moyen Valve pour vérifier?
Ouais.
Mais ils en ont aucun.
Bah ils en ont aucun.
Donc ouais. C'est sur la bonne foi des gens, si tu veux. Moi je les blâme pas. De toute façon, il fallait le mettre. Ça.
Oui.
Par contre, ils ne disent pas ce qui se passe s'il y en a un qui est chopé. Parce qu'en fait, le seul cas de figure où on pourrait avoir un mec dont ce soit avéré qu'il ne respecte pas cette clause, c'est le cas de figure où on a Doritos, tu vois, qui apparaît comme ça, un Doritos sauvage apparaît, et révélation, machin, a été payé pour vendre tel ou tel jeu, ce qui peut arriver, hein, quand même, et à ce moment-là, on fait quoi? C'est quoi la sanction, en fait? Est-ce qu'on supprime sa page de curateur? C'est dit nulle part.
J'imagine.
Dans la logique de ce qu'ils disent, c'est ça.
On saura pas refaire ça.
Mais ils le disent pas explicitement.
Après, bon, il peut aussi y avoir des sanctions. Enfin, je pense que le premier cas où on en aura, on aura ce problème de Doritos sur Steam, fera jurisprudence et la réaction de Valve sera très importante à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est encore vide juridiquement et je suis pas sûr que Valve ait forcément envie de faire la police, quoi.
Je veux dire, il t'aura 2-3 Doritos de temps en temps, c'est pas ça qui va surcharger Valve, à mon avis.
Oui.
En plus, la sanction, elle est simple, si tu veux, tu supprimes la page. Et ça, à mon avis, ça peut être chiant. Parce que, moi, mine de rien, je pense que le fait d'avoir sa page sur Steam où tu peux mettre tes vidéos YouTube, parce que tu peux mettre tes vidéos YouTube.
Effectivement.
Ça peut apporter de la vue quand même, hein. Surtout quand tu t'appelles déjà Total Biscuit, que t'es en première page, tu vois, tout le temps, que t'es premier du classement des curateurs et que ça te rapporte d'autant plus de vues que ce que tu n'as d'habitude, tu vois. Enfin, moi je pense que ça peut être très pénalisant de ne pas avoir sa vidéo sur Steam, par exemple. Ne serait-ce qu'en termes de référencement, tout ça, c'est une sanction qui peut faire très mal et qui peut peser. Ben, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais c'était juste par rapport à Valve. Eux, ils font ça pour se protéger. Pour dire, nous, on met ça en place, mais après, c'est sûr qu'ils ont pas envie de gérer derrière, de devoir bannir des pages, faire tout ce genre de choses. Ils font ça, ils se protègent en espérant que les gens jouent le jeu, et puis, si c'est pas le cas, il faudra je pense qu'ils réfléchissent, mais aujourd'hui, dans l'idée, je pense qu'ils savent pas ce qu'ils feront si ça arrive, quoi.
Ouais.
Ils feront un système de vote.
À mort.
Vous êtes, oui, pouce levé ou pouce baissé. Surtout qu'il y a déjà les icônes, hein, sur Steam.
Exactement. Ce serait énorme. Mais dans l'état actuel des choses, je me demande si justement un utilisateur qui se sent floué ne peut pas demander des dommages et intérêts à un curateur, justement.
En vrai, on parle de Steam, là.
Ah ouais, après, je sais pas. Mais est-ce que le fait que Steam rajoute ça, c'est justement pas pour se protéger de ce genre de choses?
Ah, mais sûrement. Clairement. Ouais. Je veux dire, ils veulent pas avoir des emmerdes avec ça, c'est tout.
Ouais.
Mais j'espère que le moment venu, il y aura une sanction, parce que sinon, ça sert à rien. Honnêtement, attention, les gens, si vous respectez pas le truc, on va s'énerver, hein.
Ouais.
Oui, c'est très efficace, ça, effectivement.
Il y aura des sanctions, c'est sûr. Après, je pense que ça sera juste, enfin, juste, entre guillemets, la suppression de la page de curateur, quoi.
Ouais.
Et dans le même temps, on a Twitch qui prône aussi la transparence, notamment sur les streams sponsorisés. Parce que ça existe, et qui ajoute en fait dans son contrat une clause sur les campagnes d'influence, en gros, qui dit tout simplement lorsque c'est bien fait, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Les marques font parler de leurs jeux, les influenceurs, donc les streamers, gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire influencer a priori, et les spectateurs se divertissent et s'informent avec du super contenu. Donc en gros, l'idée, c'est que chacun des streams qui seront sponsorisés par, je sais pas moi, Electronic Arts achète un stream pour la sortie, par exemple, de Kingdoms of Amalur, à l'époque, ça avait été fait.
C'était Pomfetu, je crois qu'il avait dit d'ailleurs, il avait été transparent sur le sujet.
Exactement. Je crois que ça avait été fait à peu près dans tous les pays de lancement du jeu. Il y avait Pomfetu chez O'Gaming, il y avait Day9 aux États-Unis. Enfin bref, c'était un gros stream marathon en fait de découverte sur Kingdoms of Amalur. Ça typiquement, maintenant sur Twitch, c'est plus possible. Il faudra dire clairement. Et l'afficher sur la page que c'est un stream sponsorisé. Alors il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes comme les gens qu'on vient de citer. Après il y a des gens qui peuvent tout à fait dire ouais non mais moi je fais un stream sur ce jeu parce que je l'ai acheté et que je suis à fond dessus et je voulais absolument vous en parler, vous le faire découvrir. Ça c'est tendancieux et ça c'est ce que Twitch essaie de d'éradiquer, on va dire. Après même problème que sur Steam. Comment on vérifie ça?
Oui, parce que à moins de ça jouer Cyprien et Squeezie et de faire ça en mode tellement views que que voilà, tu ne vois que ça, quoi. Je veux dire, en général, les youtubeurs, ils se la jouent beaucoup moins honnête, hein, ceux qu'ils ont payés, hein, je veux dire. Donc, qu'est-ce que tu vas aller vérifier ça? Comment Alors, là où une remarque que je voulais faire aussi, c'est que autant tu vois sur Pomfétude, ça me posait pas de soucis parce que ils ont pas vocation à être critiques, si tu veux.
Ouais.
Ce sont des gens qui font du commentaire de vidéos e-sports. Donc après tout, qu'ils fassent de la pub pour un tel ou pour un tel, je veux dire, ça me pose aucun souci. Alors par contre, la transparence, je veux dire, à mon avis, pour ceux qui ont la prétention d'être critiques, ça va juste pas être possible, quoi. S'ils veulent rester crédibles. Ils vont bien être emmerdés là, je pense, parce que en gros, enfin, soit ils adhèrent au contrat et dans ce cas, ils auront plus aucune crédibilité. Ben, je veux dire, comment tu veux prendre au sérieux un mec qui te parle, fait la critique d'un jeu dont il a fait de la pub et dont tu sais qu'il a fait de la pub. Je veux dire, c'est pas possible. Soit ils jouent pas le jeu. Que dans tous les cas, honnêtement, je vois pas comment un critique, si tu veux, qui fait ses trucs sur Twitch. Peut être honnête avec cette clause-là, quoi. Mais après, la clause, je la trouve super, hein, honnêtement.
Bah écoute, on verra, hein. Tu vois, par exemple, Total Biscuit, lui ne se cache pas d'avoir fait parfois des critiques pubs, c'est-à-dire des critiques qui ont été achetées par tel ou tel éditeur. Ils lui ont dit, voilà, teste ce jeu. Il a été d'ailleurs très très honnête dans ses critiques en disant exactement ce qu'il pensait, et parfois c'était des trucs assez douloureux pour l'éditeur. Après, j'imagine que tous n'ont pas forcément cet angle critique aussi crédible, quoi.
Oui, tous les éditeurs seront pas d'accord pour que des gens qui payent critiquent leur jeu non plus, j'imagine.
Exactement. Et j'en ai parlé d'ailleurs hier quand j'étais en train de jouer sur L'Ombre du Mordor. Il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que si tu n'es pas partenaire, on va dire, de l'éditeur, enfin si l'éditeur ne te dit pas OK, c'est bon, vas-y stream ou publie sur YouTube, bah je vais te l'enlever ta vidéo. Donc en gros,
oui, alors précision quand même sur le cas L'Ombre du Mordor. En fait, ça on le sait à partir de Dr Chocapic de Gamecult, dont on regardait le stream sur ce même jeu et qui disait qu'en gros Warner était pas OK avec ça. Honnêtement, on n'est pas allé le vérifier.
Non.
Mais Morgan voulait pas prendre le risque parce que lui, je veux dire, il a une centaine de vidéos qui sont sur sa chaîne, trois strikes. Je veux dire, il a pas un comment ça on appelle ça
un network
derrière lui pour le soutenir en cas de souci. Donc il suffit qu'il tente le diable et qu'on lui foute des strikes dans la gueule et que voilà, on ferme sa chaîne et il a un baba, quoi. Donc
et j'ai regardé du coup sur YouTube France et il y a vraiment pas beaucoup de let's play sur L'Ombre du Mordor en dehors de la vidéo de Squeezie et Cyprien sur leur chaîne, et il y a un mec qui fait un let's play entier sur le jeu. Et visiblement n'a pas reçu de strike, donc je sais pas exactement où est la véracité dans ses propos, mais voilà, je vais pas tenter le diable.
Bah moi j'aurais tendance à penser que c'est vrai parce que quand je vois les ventes du jeu, je veux dire il est premier sur Steam là, il a l'air super populaire, je m'étonne qu'il y ait aussi peu de vidéos.
C'est vrai
que c'est étonnant, ouais.
Voilà.
Bah après tu vois, enfin c'est marrant parce que du coup quand tu fermes un petit peu la possibilité de voir le jeu avant de l'acheter, tu regardes bah justement sur les recommandations de Steam, 95% sur le jeu sont positives. Ce qui est quand même assez rare. pour un jeu comme ça. Donc bon, après je sais pas, c'est, on est à 3 jours après le lancement, donc ça pourrait peut-être changer, mais
nous verrons. Ok, on passe à la suite et nous allons parler de Final Fantasy. Dwayne et moi, on vous avait dit que bon, le système de combat, on l'avait pas trop vu pendant le TGS et qu'on n'avait pas se prononcer dessus. Honnêtement, je ne veux pas me prononcer dessus tant que je n'y ai pas joué. Mais quand même, on a eu des déclarations récemment qui font un peu peur, notamment, je crois, Morgane, que le fait qu'ils veulent faire un jeu simplifié, jouable à 2 boutons, c'est ça ?
Oui, alors 2 boutons, c'est-à-dire qu'il y aura 1 bouton pour la position offensive, 1 bouton pour la position défensive, et a priori, 1 bouton, enfin, 1/2 bouton pour les attaques spéciales, pour les armes, donc on va dire 2,5 boutons.
Ben, prépare-toi, je te préviens.
Donc en gros, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire toutes vos attaques avec un seul bouton, toutes vos parades avec un seul bouton, sachant que les gens se demandaient, mais merde, si je spamme toujours le bouton de défense, en fait, les ennemis vont jamais pouvoir me taper, c'est ça l'idée. Bon, a priori, il y aura une jauge quand même de concentration, on va dire, enfin une jauge qui s'épuise au fur et à mesure que vous défendez, et si vous spammez, au bout d'un moment, vous pourrez plus vous défendre. Vous pourrez d'ailleurs, alors ça j'ai trouvé ça très délicieux, on va dire, c'est si vous restez appuyé sur le bouton, mettons le bouton A qui sera le bouton d'attaque, le personnage va faire un combo tout seul. Alors ça sera un combo simple, hein, mais ça sera un combo quand même, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
Ben, je me tourne vers notre spécialiste JRPG, Ben, que penses-tu ?
Ben, du coup, c'est même plus un JRPG, quoi. Enfin, c'est le système de combat, c'est ultra simplifié, donc plus on avance dans les Final Fantasy, plus c'est du simplifié. Là, a priori, voilà, en spammant le bouton d'attaque, le seul moyen de faire des combos différents, c'est parce qu'on peut changer son arme en cours de combat, quelque chose comme ça.
Il y a une problématique de rythme aussi, a priori, sur les combos.
Moi, j'avais l'impression qu'il me parlait de Kingdom Hearts, en fait.
Ouais. Ben voilà, alors moi, j'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts, mais je le mets pas dans la même catégorie qu'un Final Fantasy. Si voilà, c'est pour faire le même jeu, ça sert à rien, quoi. Déjà, bon, c'est plus du tour par tour. En soi, on peut le comprendre. Enfin, on peut le comprendre, oui et non, mais
Ah non, moi, je le comprends pas.
Non, moi non plus, parce que je suis un fan des premiers Final Fantasy, mais c'est vrai que c'est plus ouvert à un grand public. Donc, ben, pour Square... on va dire qu'ils s'en foutent de leurs fans et ils veulent s'ouvrir à tout le monde.
Oui, mais est-ce que Final Fantasy, c'est une licence grand public? C'est ça la question que je me pose, parce que franchement, quand tu vois la gueule des persos, sérieux, ce genre de truc, c'est grand public en Occident. Alors au Japon, je veux bien, parce que c'est des chanteurs de J-pop, en fait. En vrai, les héros, c'est des chanteurs de J-pop. Donc je veux bien que ce soit populaire au Japon, mais en Occident.
C'est sûr, ouais, c'est une stratégie bizarre, on va dire.
Je sais pas, il y a quelqu'un qui leur a expliqué que les boys bands c'était has-been depuis 15 ans chez nous, ou
On va dire ça à un fan de One Direction, je suis pas sûr qu'il sera d'accord avec toi, mais bon. Putain, on a parlé de One Direction dans un podcast de GameInfo.fr, oh mon dieu, je me sens sale.
À part ça, Ben, je voulais te demander tes impressions, justement, puisqu'on a enfin un fan de JRPG à part moi... sur ce podcast, qu'est-ce que tu penses de Final Fantasy, là, de ce Final Fantasy XV? Parce que, alors, avec Dwayne, on était un peu partagé, si tu veux. Alors, Dwayne, lui, c'était passé crème, hein, comme il dit. C'est-à-dire que, lui, de toute façon, c'est du JRPG, donc ce genre de délire avec les chanteurs de J-pop, machin, il s'en fout, même si t'as des monstres en face super réalistes.
Je pense qu'il s'est habitué, ouais.
Moi, par contre, tu vois, ce que je disais, c'est que, ouais, le design de Nomura, ça peut passer en cel shading, si tu veux. D'ailleurs, ça passe sur Kingdom Hearts. Mais en réaliste, honnêtement, le côté design de monstres super chiadé avec en face les chanteurs du J-pop, là, j'avoue que chez moi, il y a une suspension d'incrédulité qui casse tout, quoi.
Ouais, ben, je suis plus de ton avis. C'est... Aujourd'hui, j'ai un peu de mal. C'est vrai que certaines vidéos, tu vois des gros monstres, ça a l'air super joli, super bien fait. Enfin, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que c'est ce qu'on recherche dans ce type de jeu ? Moi, non, en tout cas. Alors oui, c'est de plus en plus comme ça. Mais bon, en plus, moi, je suis JRPG un peu rétro, donc forcément, c'est pas trop ce que j'aime. Mais c'est vrai que les vidéos où on les voit qui se baladent en voiture, qui s'arrêtent, qui vont tuer 3 monstres, qui remontent dans leur voiture, enfin non, c'est pas ça, quoi. Ça a du mal à passer.
Mordraine.
Moi, j'attends, en fait, qu'ils fassent la même chose, mais avec les idoles, en fait. Qu'on ait les gamines japonaises à la place des boys bands dans Final Fantasy.
Mordraine, ouais. Le jeu que tu réclames existe déjà, ça s'appelle Final Fantasy X-2.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Tu peux jouer trois filles, tu vas être content.
Non, mais écoute, enfin, je sais pas, moi, je...
T'es pas, de toute façon, c'est japonais, c'est trop bizarre.
En fait, c'est, non, mais c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je me dis, enfin, ils vont continuer, quoi, parce que, visiblement, ça marche. Moi, finalement, ce qui me choque pas le plus, c'est pas le design, parce que bon, je me suis habitué quand même, au bout d'un moment, enfin, ça fait depuis Final Fantasy VII qu'on se les tape, les émos, c'est bon, quoi. Et
ouais,
donc,
mais
du coup...
dans Final Fantasy VII, si tu veux, t'avais Cloud, quoi.
Oui.
T'avais d'autres persos à côté qui avaient un peu de classe. Là, c'est tous les persos. T'as même pas un perso féminin en cast, en plus. Hein,
ah, voilà. Non, mais on est d'accord. Après, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment le système de combat, quoi.
Bah, ce qui est dérangeant dans le système de combat, c'est cette volonté de simplification à l'extrême. Est-ce que c'est destiné au public de Final Fantasy? Et, enfin, je sais pas, moi, je regarde les forums... qui parle du jeu, mais il se fait défoncer, quoi. Le pire, c'est la manière dont il communique, quoi. C'est le mec qui dit, on va tellement simplifier le jeu qu'il sera jouable à deux boutons. Tu fais, mais sérieux, mais le mec, ils ont lu les critiques sur les derniers Final Fantasy. Ils se sont demandé pourquoi les derniers Final Fantasy se vendaient moins. Non, parce que c'est un fait, hein. Je veux dire, le Final Fantasy 13, ils l'ont tellement 13, tu veux, qu'à un moment donné, plus les épisodes avançaient, plus moins ça se vendait. Donc, en fait, je sais pas, ils avaient une licence qui avait une aura internationale, c'était la licence du Japon, et là, plus les épisodes avancent, plus j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est que moi, Ben, mais j'ai l'impression que ils perdent de leur aura. Alors que, attention, hein, moi je fais pas partie des haters de Final Fantasy XIII, hein, je fais partie des rares personnes qui ont plutôt apprécié le jeu, en fait. Bon, sachant qu'à la base, je suis pas du tout fan de Final Fantasy, hein, faut le préciser aussi. Moi, j'ai été élevé au grain, au Fantasy Star, tout ça. C'est pas la même école, si vous voulez. Je considère que sur PlayStation, Square Enix, ça fait bien mieux que Final Fantasy. Ils ont fait du Valkyrie Profile, du Xenogears, etc. Enfin bref, là, c'est les débats de passionnés de JRPG. Je préfère un Suikoden à un Final Fantasy, par exemple. Pour moi, il y a aucune comparaison possible. Donc, je suis pas un fan de Final Fantasy à la base. Je vous pas un culte. Et quand je vois les réactions des fans, je me dis, mais des fans, genre, tu vois, j'ai des potes, mais des fans depuis des années, mais Final Fantasy, plus jamais, machin. Tu dis, waouh, quoi.
Là, pour les fans, ils vont droit dans le mur, de toute façon. Hein, c'est la communauté de fans qu'ils avaient, elle va changer. Ça va plus être les mêmes personnes qui vont être fans de ce jeu, je pense.
Mais à la limite, ça, si ils avaient l'assurance, tu vois, de retrouver un autre public derrière. Mais je suis même pas sûr. Hein.
Ah non, je suis pas sûr non plus, c'est sûr.
Pourtant, pour moi, ils avaient fait le plus gros, c'est-à-dire que, au moins, sur le plan technique, ça y est, on avait un Final Fantasy qui a envoyé du bois, quoi. ce qui déjà était un exploit, quand même, hein. Je veux dire, Final Fantasy XIII, c'était, bon, le jeu passable techniquement sur 360, quoi. C'est pas le jeu qui te fait foutre une baffe. Là, tu vois, la semaine dernière, pendant TGS, j'avais vu le trailer, j'ai fait, alors, ok, on peut ne pas adhérer au design, tout ça, mais au moins, on peut dire une chose, c'est, ça y est, sur le plan technique, les Japonais, ils sont in the place, tu vois, ils sont là, ils assurent. Et il a fallu qu'ils sortent ces conneries après, enfin bref. Voilà, où commence saboter une com super bien huilée pour faire ça, quoi. Bon, Ben, pour le coup, ça va être ta première news. J'espère que tu es prêt.
Oh oui.
Tu avais un coup de gueule à nous vous faire partager sur le modèle économique de Might and Magic Heroes Online. Alors Might and Magic, licence culte, hein. Attention.
Oui, voilà, bah, justement, avec moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé avec le 2 ou le 3 peut-être. Donc il y a quand même un certain temps. J'ai continué à le suivre en y jouant un peu moins. Et là, je vois cette news passer, je me dis, tiens, ça peut être sympa. Après, bon, le mode online, oui et non, ça c'est chacun ses goûts, on va dire. Mais c'est après quand tu vois comment marche le mode online. Donc en fait c'est un freemium pour faire simple. C'est-à-dire que bah tu vas pouvoir construire tes archers, à partir de tes héros comme un Heroes of Might and Magic, sauf que tu vas avoir du temps limite et que tu vas pouvoir payer pour aller plus vite. Donc ça va devenir un pay to win en gros.
Ouais. Alors pour les jeunes qui ne connaîtraient pas Heroes of Might and Magic, c'est du tour par tour, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. C'est en gros, tu as un héros et tu formes une petite armée dans un monde de la fantasy. Tu peux avoir des griffons avec toi, des archers, des sorciers, tout ce genre de choses. Et en gros, tu recrutes, tu construis tes armées avec tes ressources, mais dans le jeu normal, ça se fait voilà en fonction de tes ressources. Là, bon. Ça va être pareil, en ayant en plus la possibilité donc de payer pour accélérer la construction de ton ouais. armée, quoi.
Donc voilà, un modèle de jeu, si tu veux, où le principe c'est le tour par tour, où on va te faire payer pour aller plus vite.
Exactement.
C'est pas du tout pété. Pas non. Du tout. C'est pas du tout du pay to win. Pas du tout.
C'est un peu désolant parce que, enfin, la licence c'est pour moi c'est un bon jeu. En mode solo c'est un très bon jeu. Et puis là c'est, on se demande ce qu'ils veulent faire. Surtout que je crois que le 7 sort l'année prochaine.
Jeu Ubisoft, hein, je précise.
Oui, voilà, Ubisoft, bien sûr. Ouais.
Vous connaissez mon amour pour cette boîte, je pense. Voilà.
Mais oui, c'est vrai que c'est... Après, qu'il y ait quelques, entre guillemets, achats in-app pour certaines choses, comme Dota peut le faire, où tu peux acheter des skins, ce genre de choses. Mm-hmm. En soi, si tu veux rendre ton perso plus joli, pourquoi pas. Mais de là à payer, bah là, c'est du pay-to-win, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, et du coup, c'est... J'espère que ça marchera pas.
Bah le dernier essai en fait de freemium d'Ubisoft, c'était justement dans l'univers de Heroes of Might and Magic, le jeu de cartes là, comment ça s'appelle, Champions.
Ah oui, Duel of Champions ou un truc
c'est
comme ça.
C'est ça, Duel of Champions qui utilise la licence Heroes of Might and Magic dans le jeu de cartes, un petit peu comme l'a fait Hearthstone après lui, sauf que là pour le coup au niveau du freemium, on est au taquet, hein, parce que moi j'avais commencé à jouer au jeu parce que j'aime bien les jeux de cartes et je me suis retrouvé bloqué, mais genre au bout de, je sais pas, 5 heures à peu près.
Ah oui.
Donc au bout d'un moment, tu te dis ouais, mais à quoi bon jouer, quoi. Et donc du coup, je me dis que cette première expérience là, quand tu essaies de la transporter un petit peu sur le futur de Might and Magic Heroes Online, c'est pas forcément très rassurant, quoi.
Non, c'est sûr, ouais.
Donc bon.
Voilà, Ubisoft, tout ça. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites, pour les licences historiques que vous avez saccagées. Merci beaucoup.
Mais est-ce que Might and Magic,
le prochain,
c'était bon?
J'ai pas joué aussi, ça. Je me suis arrêté au 5, mais.
C'était pas celui qu'ils avaient fait en Early Access, là?
Possible.
Je me souviens plus, ouais.
Parce que je sais qu'ils avaient financé un jeu en Early Access, là. D'une licence historique, justement.
Ok.
Si c'est celui auquel je pense, je crois qu'il avait des retours plutôt positifs.
D'accord.
Sauf que moi, ça me posait un vrai souci, parce que un early access pour un éditeur...
Bah oui.
Je sais pas, le early access, c'est pas censé être le truc, tu sais, que tu fais en dernier ressort parce que t'as pas les moyens, tout ça.
Voilà, quand t'as un gros studio, t'as en principe pas besoin de ça, quoi.
Ubisoft, c'est étonnant, cette boîte dans la nécessité. Enfin, bref, on va arrêter de trash talk Ubisoft, monsieur. Et... Ça y est, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. Ma foi, ça va, on est dans les temps, tout va bien. Nous allons maintenant passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est The Long Dark.
Est-ce qu'il est l'heure? L'heure de la mort est-elle arrivée? I could use this. Mais si ça se trouve, cette rencontre est aléatoire et elle ne se produit peut-être pas à chaque fois. Ah voilà, ça y est, j'ai récupéré mon kit de soudure. Mon kit de couture. Oh putain! Non! Non! J'en étais sûr! J'étais pas préparé! Alors, The Long Dark, qu'est-ce que c'est? C'est une preview, en fait, déjà qu'on va vous faire, puisque le jeu n'est pas fini. Il vient de sortir en Early Access, en même temps que l'alpha des backers.
Oui, parce que je précise que c'est un des rares Kickstarter que tu as financé.
Exactement, c'est un des quatre Kickstarter que j'ai financé. Donc il a terminé sa campagne de financement en octobre 2013, donc ça commence à faire un petit peu déjà. C'est un des premiers Kickstarter, enfin des premiers projets qui a ouvert le Kickstarter canadien, donc en dollars canadiens. C'est un des seuls d'ailleurs à avoir été assez intéressant pour être backé. Il demandait à l'époque d'ailleurs 200 000 $ canadiens. Il a réussi à en récolter 250 000 $ canadiens. Donc c'est un petit peu ric-rac, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc c'est un jeu qui est développé par le studio Interland, qui vient de se créer autour de personnalités du jeu vidéo assez enfin c'est pas des gens qui sont connus mais c'est des gens qui ont fait des jeux assez intéressants, ils sont des vétérans un petit peu de l'industrie. Mmh. Donc, c'est un jeu de survie qui se déroule dans l'immensité sauvage du nord du Canada.
Le pays de mamie.
Exactement, le pays de mamie l'ami. Vous êtes un pilote d'avion qui s'écrase dans cet endroit à la suite d'un événement géomagnétique qui éteint un petit peu tous ces appareils de technologie. Vous vous rendez compte que vous allez devoir survivre dans cette immensité hostile qui est peuplée donc de cerfs, de caribous et de loups et de pas grand chose d'autre et de cadavres assez étranges un petit peu partout qui sont morts de froid évidemment hein, puisque dans cet endroit on peut facilement atteindre les moins 50 degrés. Donc c'est plutôt hostile comme endroit. Alors c'est un jeu de survie certes, mais c'est pas un survival horror parce que c'est un jeu qui fondamentalement ne fait pas peur en réalité dans le sens où vous allez surtout être mal à l'aise. Vous allez vous dire mais en fait est-ce que je vais réussir à passer la nuit, est-ce que je vais réussir à ne pas mourir de faim, de soif ou de froid, mais en réalité il n'y a pas de moment in your face de peur. C'est pas Amnesia quoi.
Il y a un moment quand même si.
Oui, en fait c'est le seul moment pour l'instant, pour être tout à fait précis, l'early access / alpha de The Long Dark nous propose de découvrir le mode survie, donc le sandbox du jeu, sachant qu'il y aura un mode histoire bientôt. Le personnage principal est joué et doublé par le doubleur du commandant Shepard dans Mass Effect. Donc pour l'instant, la phase histoire n'est pas disponible. On est largué dans une map qui est relativement grande parce que finalement le personnage se déplace pas très vite et perd assez vite de son énergie. Donc le jeu vous demande un petit peu de regarder un certain nombre de barres, la barre de fatigue, la barre de froid, la barre de faim et la barre de soif. Logique, chacune de ces barres auxquelles il va falloir faire très très attention pour ne pas mourir. Par exemple, la mort la plus rapide que vous puissiez avoir, c'est la mort de froid. Logique, si vous dormez cul nu dans la nuit dans le nord du Canada, vous réveillerez pas le lendemain hein, concrètement. Vous pouvez aussi vous faire attaquer par des loups. Il peut y avoir des moments, on va dire un petit peu où vous sursautez parce que forcément, si il y a un loup qui vous saute dessus, un peu compliqué. Mais c'est très compliqué de s'en sortir d'ailleurs face à un loup. Donc finalement, le jeu est assez réaliste de ce point de vue-là. D'un point de vue graphique, il est réalisé en cel shading, c'est assez magnifique, avec des changements climatiques.
Alors, je précise, c'est un cel shading assez particulier, c'est pas cel shading Jet Set Radio, hein, c'est autre chose. C'est plutôt des aplats de couleurs, c'est assez particulier quand même.
C'est un peu le cel shading de The Walking Dead si t'enlèves un petit peu les coups de crayon, en fait.
Voilà.
Ce qui donne une patte graphique assez intéressante, et il y a vraiment des moments où tu t'arrêtes et tu regardes le jeu et tu te dis putain qu'est-ce que c'est beau quand même. Coucher de soleil, lever de soleil, c'est... Le jeu évidemment vous propose un environnement dynamique en termes de temps, c'est-à-dire que le climat change, vous pourrez être par exemple coincé dans une tempête de neige, où tout d'un coup le brouillard s'abat sur vous, vous y voyez pas à plus de 20 mètres, ce qui peut être assez angoissant. Parce que forcément, si vous y voyez pas à plus de 20 mètres, vous n'avez plus aucun repère et vous avez des chances de vous perdre. Voilà. C'est la survie dans le grand froid, tel qu'on pourrait l'imaginer dans un jeu vidéo, quoi.
Mais plus que le cel shading, moi, ce qui m'a bluffé, c'est le travail sur la partie sonore.
Ouais, on est d'accord. Il y a une vraie ambiance sonore grâce au bruitage, surtout, parce que la musique est peu présente dans le jeu, en tout cas dans le mode survie. Par exemple, vous entrez dans une cabane abandonnée et d'un coup, vous entendez le vent qui s'abat contre la porte et vous dites « Ah oui, je vais peut-être dormir ici, en fait, attendre que la tempête se calme. » Parce que tu sens, tu te dis que si tu l'entends comme ça alors que t'es à l'intérieur, alors à l'extérieur, ça doit être monstrueux. Il y a une vraie ambiance, c'est-à-dire que t'entends les corbeaux au-dessus de toi qui te dirigent d'ailleurs vers les cadavres que tu pourrais looter, donc une carcasse d'animal qui a été tuée par un loup par exemple, ou un cadavre humain qui pourrait te donner un certain nombre de loot intéressants. Les loups évidemment que tu entends hurler quand ils commencent à être proches de toi.
Ou même ton personnage tout simplement.
le personnage qui te parle, enfin qui te parle, qui se parle à lui-même, parce que forcément il se sent seul, et ça c'est quelque chose qui va être rajouté dans le mode histoire, c'est l'aspect solitude et l'aspect psychologique en fait de cette survie seule dans le grand froid, c'est-à-dire que tu pourras devenir fou en fait dans le jeu. Ça peut être assez intéressant à développer. En tout cas, c'est une feature de gameplay qu'ils ont vendue dans le Kickstarter. Donc bref, une ambiance sonore incroyable, une ambiance visuelle qui est assez impressionnante. Enfin, tu te sens dedans, quoi. Quand tu joues au casque, par exemple, c'est limite si t'as pas froid de temps en temps, tu sais. Et le fait que, pour l'instant, les endroits sont assez variés. C'est-à-dire que, certes, on est dans une énorme immensité enneigée.
Oui, parce que, attention, hein, c'est fait à la main, en fait. Hein, ce n'est pas oui. du total aléatoire, comme on voilà. pourrait s'imaginer sur ce type de jeu.
Pour l'instant, c'est une carte. Enfin, c'est pas prévu qu'il y ait un mode aléatoire, mais il y aura d'autres cartes, en fait, sur le mode survie. Enfin, c'est pas imposant sur les standards de monde ouvert, évidemment, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des points d'intérêt qui sont tous très variés, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'objets qui sont, eux, placés aléatoirement dans le monde. Donc c'est-à-dire que quand vous recommencez une partie, bah vous aurez pas la certitude que le fusil sera dans le poste de surveillance par exemple. Et ça donne un petit peu un aspect aléatoire et un aspect surprenant et étonnant au jeu, puisque vous ne savez pas exactement où vous allez pouvoir retrouver votre nécessaire de survie. Et si par exemple vous trouvez pas un certain objet qui vous permet de faire je sais pas quoi, de survivre.
Même, par exemple, pour faire de la couture,
voilà.
pour réparer tes vêtements.
Il y a un aspect qui est assez intéressant dans le jeu, c'est-à-dire que les vêtements se dégradent. Et plus ils se dégradent, en fait, moins ils vous donnent chaud. Ce qui fait que vous pouvez avoir, je sais pas moi, une doudoune monstrueuse, mais si vous la portez pendant 2 jours non-stop, eh ben, son pourcentage, en fait, de condition va baisser. Et le seul moyen que vous avez, en fait, d'augmenter cette condition, c'est de la réparer avec un nécessaire de couture. Le truc, c'est que si vous tombez pas sur le nécessaire de couture dans votre phase de survie, ben vous l'avez dans l'os, quoi. Et c'est-à-dire que potentiellement, si sa condition tombe à zéro, ben l'objet est ruiné et il va falloir vous trouver autre chose. Ça veut dire que pendant ce moment-là où vous allez essayer de trouver un autre vêtement, eh ben vous allez vraiment vous l'épeler. Il y a un aspect un petit peu urgence dans le jeu, c'est-à-dire que tu vas toujours chercher l'objet qui va rendre ta survie plus agréable, on va dire. Mais si tu le trouves pas, tu te dis « Merde, comment je vais faire ?» Et c'est ça qui rend le malaise dans le jeu. C'est pour ça que je dis c'est un jeu qui cherche pas forcément à te faire peur, mais qui te met dans une position où tu n'es pas forcément à l'aise. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, à savoir que le jeu est très très bien supporté par les développeurs. Il y a quasiment une mise à jour par jour.
D'accord.
C'est vous dire à quel point les développeurs sont à fond dedans, et d'ailleurs ils écoutent pas mal les recommandations des utilisateurs, à savoir que voilà, ils sont toujours en train d'apporter des petits détails supplémentaires à l'expérience de jeu, à rééquilibrer un petit peu la population de loups par exemple, la façon dont descend ta jauge de faim, etc., etc., le nombre de calories que tu brûles en marchant, en courant, enfin bref, c'est très très précis, et les développeurs sont vraiment derrière leur jeu à fond, c'est-à-dire on aurait pu se dire que oui, c'est Early Access, les gars, c'est pas grave, sans les mains, on voit ce que la communauté dit, et puis on verra après, on prend un mois de vacances. Les gars ont fait une mise à jour le lendemain du lancement de l'Early Access par rapport au premier retour sur leur jeu, quoi. C'est ce que devrait faire n'importe quel Early Access, en fait, concrètement.
Si seulement. Ben, tu avais des questions à poser?
Oui, il y a un système de permadeath, j'imagine.
Oui. Parce que tu meurs, donc tu dois recommencer
tout, en
mode survie. Ouais.
Et oui, et le mode histoire, t'en sais un peu plus, parce que du coup, c'est quel type d'histoire, parce que la survie, ok, mais ouais. Ça va être un peu un point and click, enfin, cette façon-là.
Alors en fait, si tu veux, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, en dehors du fait que voilà, tu vas incarner un personnage qui est paumé dans le Grand Nord et qui a son seul... rattachement au monde, en fait, c'est la photo de sa famille qu'il a dans sa poche, et ce mode histoire va logiquement nous mettre en situation avec des personnages non joueurs, et donc il est probable que certains soient pas forcément très amicaux.
D'ailleurs, t'as des indices quand même sur le mode histoire. la chose dont on a parlé tout à l'heure, notamment, ouais. ou encore tous les cadavres que tu trouves un peu partout. Tu dis, voilà. Mais d'où ils sortent tous ces mecs là, en fait, c'est ça. En vrai.
Parce que, enfin, c'est pas totalement paumé. Hein. En tout cas, la carte à laquelle on a accès, dedans, t'as un chemin de fer qui passe. Et tu vois qu'il y a un train qui a déraillé, justement, à la suite de cet événement géomagnétique. Et tu te dis que il est possible qu'il y ait eu des survivants, quand même. Alors, dans le mode survie, il n'y a pas, forcément. Mais dans le mode histoire, il est probable qu'il y ait des personnages que l'on puisse trouver. Et voilà, c'est un petit peu à la Walking Dead. C'est-à-dire, est-ce que ces personnages, on peut leur faire confiance? Est-ce que ce sont vraiment des amis ou est-ce qu'ils cherchent autre chose, en fait? Donc, c'est quelque chose qui va être amené par la suite avec le mode histoire. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais en tout cas sur le Kickstarter ils en parlaient beaucoup et c'est quelque chose qu'ils avaient pas mal, enfin sur lequel ils insistaient pas mal à l'époque. C'est-à-dire que pour eux The Long Dark c'est un jeu solo point barre, donc ils essaient de faire un mode histoire qui sera intéressant et qui sera jouable et rejouable. Voilà, en tout cas de ce que j'ai vu sur le mode survie, il y a des mécaniques de jeu qui sont impressionnante, et si t'ajoutes à ça des événements d'histoire un petit peu plus scriptés, je pense qu'on aura un jeu, enfin une expérience assez complète, quoi.
Mais entre The Long Dark et The Forest, Morgan, où ton cœur balance-t-il?
Pour l'instant, c'est sur The Long Dark, parce que, enfin, vous me connaissez, je suis une grosse flippette, et The Forest, ça me met vraiment pas bien. Pour l'instant, The Forest est également en Early Access, mais... est beaucoup moins jouable sur la durée, je trouve, parce que pour l'instant il y a les mécaniques de survie qui sont là, qui sont en place, certes.
Ouais, parce que j'allais te faire une remarque, c'est que dans The Forest par exemple, il y a des trucs que tu n'as pas dans The Long Dark, oui. Notamment des possibilités de craft, exactement. Ce genre de choses, quoi.
Dans The Long Dark tu ne craftes pas, tu n'utilises que les endroits qui sont là dans le jeu, qui sont là sur la map et qui sont faites par les développeurs pour être utilisés. Dans The Forest, c'est tout le contraire. C'est un Minecraft joli, on va dire. C'est-à-dire que t'as des crafts qui sont établis et qu'il va falloir mettre en place toi-même avec un certain nombre d'éléments dans le jeu. Mais une fois que t'as fait tout ça, pour l'instant, l'Early Access te laisse dans la nature, quoi. Une fois que t'as fait ton campement ultime, ce qui peut durer très très longtemps, bah le jeu perd un peu de son intérêt pour l'instant.
Mais donc, est-ce que c'est pas la même chose avec The Long Dark?
The Long Dark, le truc, c'est que déjà, il y a la lutte pour réussir à survivre le plus possible. J'ai toujours pas réussi à durer plus d'une semaine. C'est pour, c'est pour
te
dire...
Je te ferai remarquer que sur The Forest, t'as pas été brillant non plus.
Hein. Non, mais alors, après, The Forest, j'y ai très très peu joué, mais The Forest, c'est un jeu qui est beaucoup plus hostile, parce que t'as des personnages non-joueurs qui sont violents. Après, je suis pas forcément très très doué non plus, vous le savez. Pour l'instant, en tout cas en termes d'ambiance... En termes de système de jeu, c'est The Long Dark qui a ma préférence, mais effectivement, j'imagine qu'une fois que t'as fait un run à 50 jours sur The Long Dark, et crois-moi qu'il faut lutter pour y arriver, tu peux peut-être te lasser un petit peu, mais c'est là que le mode d'histoire va arriver en ligne de compte. Donc je sais pas exactement, je peux pas vous donner une deadline quand est-ce que ça va arriver, mais...
Ils ont pas du tout communiqué à ce sujet-là, on sait
non,
pas...
Non, pas encore, mais si tu veux, ils essaient vraiment d'équilibrer un maximum le
jeu avant de
le survie, la survie avant de d'avoir le mode histoire, quoi, ce qui est logique. Mais voilà, en tout cas, j'ai rarement vu un Early Access aussi bien fini et aussi soutenu par ses développeurs, quoi. C'est quand même assez bon signe. Et moi, déjà, de base, le jeu, je l'aime dans sa qualité d'alpha, sauf s'il est ruiné, hein, après, par tous ces changements, mais... Voilà, j'ai un petit peu de mal à m'imaginer un The Long Dark qui serait pas bien au final, quoi.
Bah écoute, Morgan, tout ça fait envie. On attend avec impatience ton test une fois le jeu fini, n'est-ce pas?
Ouais.
Quoique peut-être que s'il y a des mises à jour significatives, on refera un retour dessus.
Il y a des chances.
D'ici sa sortie, c'est possible. Ouais, ouais. Ça dépend comment ils vont...
Ne serait-ce que le mode survie, par exemple. Enfin, le mode histoire, c'est... S'il sort en version pas finie encore, ouais, il y a des chances que j'en parle, ouais.
Mais est-ce que pour le coup, ça, c'est le genre de truc qu'il faut sortir en Early Access?
Je pense pas.
Parce que si l'intérêt principal du truc, c'est le mode histoire, tu vois, enfin, spoiler une partie de l'histoire sur l'Early Access, à moins de faire, tu sais, un truc à la Kojima ou je fais un truc qui a rien à voir, tu vois, ou enfin voilà quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça soit le genre de chose qui se prête à l'Early Access, quoi, en fait.
Faut voir, on verra. Bah en tout cas déjà le simple fait qu'ils sortent une deuxième map de survie, ça sera un moment pour en parler.
Ok. Bon. On s'arrête là. Plus de questions?
Non, c'est bon pour moi.
Ok, c'est votre dernier mot. Nous allons donc nous arrêter là pour cette semaine. Ben, c'était un plaisir. C'était ta première. Donc, on espère te revoir dans
les prochains
numéros.
C'est un plaisir partagé.
Voilà. Ça s'est bien passé, tout ça.
Oui, très bien.
Ok. Donc, messieurs, dames, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, attention, j'annonce peut-être un test du Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor, signé Mordrel. On ne sait pas encore.
C'est possible.
Vu la vitesse à laquelle il avance en jeu, s'il si est là, je pense que...
Ou je suis pas sûr d'être là, c'est pour ça qu'on va pas s'y avancer. Mais
parce que c'est pas par rapport à, au fait que Moran ne finisse pas le jeu, parce que je pense que...
Non.
Quand il sera fini.
Voilà.
Oui, je pense. Il y a des choses. En tout cas, dans le courant de la semaine, c'est sûr, ouais.
En tout cas, le mode histoire, c'est sûr qu'il sera fini, hein, ça, il avance vite. Enfin, bref, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je précise au passage que Mordren fait des streams sur l'ombre du Mordor. Donc, ouais. On vous mettra un lien sur sa chaîne Xbox, que vous puissiez vous abonner, hein, si ça vous intéresse de voir ce qu'il fait, n'est-ce pas?
Ouais, je mettrai la VOD, du coup, dessus, si je peux.
Ok. Bon. Allez les gens, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.